Vos coups de cœur et coups de gueule littéraires, 01 56 40 52 85.
Clara et les chics livres, à retrouver tous les samedis sur France Inter à partir de 15h.
À demain.
France Inter,
la voix est libre.
Et c'est l'heure de là-bas si j'y suis avec Daniel Mermet et son rappeur.
Bonjour, c'est Cécilia en Dordogne. Je vous appelle parce que je voulais présenter mes voeux à l'équipe de là-bas si j'y suis. Mais je leur souhaite une année horrible, une année complètement pourrie, où il n'y aurait plus rien à dénoncer parce que tout irait bien, les gens se mettraient à réfléchir, à agir de façon raisonnable, responsable. Et puis, l'équipe de la base, si j'y suis, ils n'auraient plus de boulot. Voilà, c'est vraiment les vœux que je vous souhaite parce que, s'il y a un vœu à faire, c'est celui-là. On est en début d'année, on peut rêver. Allez, ciao.
Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche. Y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sureste mexicano, subcomandante insurgente Marcos. En silence, ils occupent les places centrales d'Ocosingo, de San Cristóbal de las Casas, de Palenque, d'Altamirano y las Margaritas. Puis ils disparaissent de façon ordonnée. Ocosingo, Chiapas, 21 décembre, plus de 40 000 bases d'appui ont marché ce matin en silence dans 5 villes du Chiapas. Il s'agit de la mobilisation la plus importante de cette organisation depuis le soulèvement de l'armée zapatiste de libération nationale, EZLN. Le 1er janvier 1994.
Si on échangeait Depardieu contre les poussées ouriotes, je pense qu'on serait largement, largement gagnant, nous, les Français.
Ouais, l'interview du mec à Monaco, là, c'est un monument. Je l'avais déjà entendu à l'époque. Par contre, les larmes de Pascal Pascariello, là, c'est insupportable. C'est insupportable. En tous les cas, merci encore et continuez quoi, bordel. Salut.
On aurait dit un repas de famille. Oncle Xavier, qui agace tout le monde avec son ton suffisant et sa manie de couper la parole. Mamie Françoise II, que pour les autres, oui, mais sa retraite, elle, faut pas y toucher. Tante Roselyne, qu'on s'amuse à mettre en rogne en lui rappelant qu'elle a bossé pour les labos dans son jeune temps. Papy Jean-Claude et son pote Serge, eux, on évite de les chatouiller tellement ils sont désagréables. Mais le cousin de Monaco, Stéphane, il est impayable. François, qui bosse à France Inter, arrive à lui faire dire n'importe quoi. Un vrai numéro de ventriloque. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire. C'était Christine du Limousin.
Salut Mermet. Alors, t'as rien à dire sur le gouvernement socialiste, t'as tellement peur de choquer tes gauchistes d'auditeurs que tu ressors des vieilles recettes sur Sarkozy. C'est vraiment, je ne sais pas quoi dire, tellement je te trouve très très bon. Avec ton sourire narquois, là, en train de dire du mal de Sarkozy, tout le temps tu attaques sans pour autant qu'on puisse se défendre, donc voilà. Alors essaye d'aller enquêter une fois sur la CGT, essaye de voir comment les élections internes à la CGT se passent, mets tes micros indiscrets, ne te fais pas présenter comme France Inter, puisque c'est ton truc à toi, hein, c'est de ne pas te présenter, d'enregistrer, et après de balancer sur la radio nationale, France Inter, que je regrette de payer avec mes impôts, et puis voilà. Donc, je ne te souhaite pas bonne année, hein, ce sera un message qui ne passera donc pas, et puis, c'est Georges du Nord, au revoir.
J'appelle pour une personne qui a demandé à comprendre Sabra et Shatila. Alors, moi, je viens de lire un livre qui s'appelle La Maison au Citronnier, et qui raconte la vie d'une famille palestinienne et celle d'une famille juive depuis les années 1900 jusqu'à maintenant. Et avec ce livre, on réalise que Sabra et Shatila, c'est un coup de sang qui vient de loin. Et l'histoire, c'est long, c'est un vertige qui donne une mesure infinie de notre inculture. Enseigner l'histoire, c'est un art qui éloigne les guerres. Alors merci Mermet de nous donner de l'histoire.
Oyez, oyez, avis à la population. Nous, Laure et Igor Marconnet, éleveurs et fromagers sur le plateau du Vercors, déclarons par le présent message que... Nous voilà contraints de faire transhumer nos brebis en hiver. Non pas pour des raisons de réchauffement climatique, mais pour des raisons de gel de notre liberté de paysan. Port de la boucle électronique obligatoire. Achat des semences auprès des multinationales agroalimentaires obligatoire. Achat de béliers dans les centres d'insémination bientôt obligatoire. Attention, sanctions. retrait immédiat des aides, contravention à la brebis non bouclée, tribunal pour les récidivistes. Nous voilà paysans délinquants. Alors, seule solution, se regrouper pour mieux lutter. Mais personne ne nous écoute, personne ne nous entend. Élus locaux, seules 50 communes drômoises nous soutiennent. Administratifs agricoles, représentants de l'État, chacun se renvoie la balle. Afin de pallier à cette surdité et nous faire entendre du grand public, le collectif d'éleveurs drômois organise des projections, des manifestations, des conférences de presse à proximité des bastions publics et une transhumance de 5 jours, brebis et chèvres faisant foi. Nous invitons Monsieur le ministre de l'Agriculture et tous ses complices. Monsieur Mermet, vous êtes aussi cordialement invité à couvrir l'événement accompagné de votre petit micro. Alors, rendez-vous donc dans la Drôme à partir du 28 janvier jusqu'au 1er février 2013 pour une transhumance de Mornin à Valence. Merci.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Merci pour les suggestions de sujets, les vœux de sujets. Très bonnes idées souvent. Il y a peut-être un sujet que vous avez oublié pour l'instant, auquel vous n'avez pas pensé, c'est le racisme anti-riche. Ah oui, vous avez vu se développer en France ce racisme contre le succès, contre le risque, contre tous ceux qui sont la France à eux tout seuls. Et prenez par exemple le cas de Maurice Lévy, le patron de Publicis, le patron le mieux payé de France. Il faut absolument nous réconcilier avec ce genre de grands personnages français. Il faut réconcilier les Français avec leurs élites. Vous vous souvenez peut-être, pour avoir touché un petit bonus de 16 millions d'euros en plus de ses justes rémunérations, Maurice Lévy, le roi de la com, a été traité comme un patron voleur. Lui, le puissant actionnaire des régies publicitaires, des médias, Libération, Le Monde, etc., etc., il a été victime d'un odieux lynchage. Eh bien, c'est ce lynchage-là sur lequel nous revenons dans Là-bas si j'y suis aujourd'hui. C'était une première version le 22 juin 2012. Voici la seconde version de cette histoire, de l'histoire de Maurice. Maurice le vaut bien. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, voilà, c'est moins exotique que Las Vegas. J'appelle de Bagnoul-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Bagnoul, débaptisé Bouygues-sur-Mer. Bagnoul, avec Laval-du-Mer, va devenir Bouygues. Avec Laval-du-Mer, M. Red, non content de bétonner peu à peu le village, semble le seul candidat pour une délégation de services publics concernant la réfection et l'agrandissement du port, pour une durée de 30 ans. Malgré l'opposition d'une grande partie de nos concitoyens réclamant un référendum populaire, le maire persiste et signe. Un collectif se bat depuis 2 ans contre cette privatisation qui risque de détruire la baie à tout jamais. De nombreux dossiers sont parvenus à la presse, dont Canard Enchaîné, et aux médias qui n'ont pas relayé.
Bonne année à toute l'équipe, c'est un grand plaisir toujours de vous écouter. Ben moi j'avais un petit vœu, c'est celle d'entendre parler de notre jeunesse, la jeunesse française. Et je ne parle pas de la jeunesse dorée ni de la jeunesse de la cité, mais de tout ce qui reste. Qu'en est-il de tous ces jeunes? En tout cas, merci beaucoup. Je vous embrasse tous. C'était Léonore de Gennevilliers, 21 ans.
Le repère d'Angers enregistre ce message pour qu'Inter le propage à tous les AMG. Le mardi 8 janvier, venez à 19h, dispo de bonne humeur, débattre à l'Arts Café. Nous accueillerons, c'est vrai, pour parler de la guerre, nos amis qui adhèrent au mouvement de la paix. Nous nous souhaiterons balèze en causant pacifisme. Excusez le lyrisme, bonne année 2013.
Deux entreprises en pleine expansion et dont il faut saluer les résultats. D'une part, la Française des Jeux, et d'autre part, les Restos du Cœur. Ben voyez, ça marche bien en France quand même. Hein. Ça progresse. Allez, salut à tous et bonne année.
Le journal de l'écho sur France Info. On commence par une année record pour Publicis.
Oui, le troisième groupe mondial de publicité affiche un bénéfice net de 600 millions d'euros en hausse de 14% par rapport à 2010. 2012 s'annonce bien. Le chiffre d'affaires a augmenté de 7,3%. Il frôle les 6 milliards d'euros.
Ça m'inspire énormément, mais énormément de respect pour les patrons qui sont à la tête de l'agence.
Maurice Lévy, qui est un homme et un patron que j'admire, qui a fait un boulot extraordinaire, il a fait une gaffe gigantesque.
En pleine campagne électorale, Publicis annonce qu'elle va verser à son patron la bagatelle de 16 millions d'euros, en plus de son salaire variable. Il faut rappeler que ce patron, c'est Maurice Lévy, qui faisait justement partie des grands patrons qui s'étaient déclarés volontaires pour payer plus d'impôts à l'automne.
J'aime pas trop qu'on me critique mon patron, ou qu'on me critique l'agence, ou voilà.
Je suis bien au McDonald's, place de la République.
Oui.
Oui, bonjour. C'est pour passer une très très grosse commande, en fait. C'est pour un client au nom de Maurice Villet. J'ai un budget de 16 millions d'euros.
N'importe quoi. Je pense pas que Maurice, je sais pas quoi, va acheter pour 16 millions d'euros de...
Bah justement, j'aurais aimé savoir ce qu'il pouvait avoir en termes de... Il a combien votre menu Big Mac ?
Donc, on récapitule. Pas de salaire fixe, mais un variable pouvant atteindre 5 millions, plus des actions, plus des stock options, plus de 6 millions d'euros l'année dernière, plus ce bonus exceptionnel de 16 millions, sans oublier l'indemnité de départ, déjà prévue pour 2017, qui dépasse les 5 millions d'euros. Sur tout ça, Maurice Lévy est contre la nouvelle tranche d'imposition à 75% préconisée par François Hollande.
Parce que nous, les Français, on est toujours en extase devant des grands hommes comme ça. Moi, je dis que c'est un grand homme.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Gaylor, Vanvi, Merch, Maurice, le vaut bien.
Flight number 2, arriving from New York.
On est devant le siège de Publicis au 131-133 avenue des Champs-Élysées sur la plus belle avenue du monde. Et ce matin, les employés, à l'appel des syndicats, mais aussi de collectifs comme Sauvons les Riches, se réunissent. C'est une grande fête, c'est un apéro en fait qui a été créé ici par les employés de Publicis et différents collectifs.
Il est là.
Mais pour inviter Maurice Lévy, le patron de Publicis, le PDG, à venir boire un verre, à trinquer à une petite table là-bas avec du champagne, des verres, voilà, sous une fine pluie. Et il y a des cotillons qui sont lancés en l'air, des petites tracts imprimés où c'est marqué patron Publicis, 16 millions d'euros. Puis il y a également des billets, des faux billets en papier qui volent. Des billets de 10 000 euros.
Ah, vous l'entendez, hein ? On vous l'a dit en commençant. Écoutez bien. Voilà. Les Français condamnent la réussite. Maurice Lévy, c'est vraiment l'exemple même de la réussite. Voilà, écoutez. Et oui, pendant que ces braves gens, soyons pas méprisants, ces braves gens hurlent dans la rue, hurlent leur envie, leur jalousie foncière, voilà ce que Maurice entend dans ses écouteurs. Parce que c'est pas le tout d'être l'un des premiers patrons français, d'être partout, d'être le visiteur du soir de Nicolas Sarkozy, le maître d'œuvre de Davos, le président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées. Il faut aussi avoir du goût pour l'art, pour la peinture. Maurice Lévy est un passionné de peinture et évidemment, bien sûr, de belle musique. Mais alors, ça l'empêche peut-être de comprendre un certain nombre de choses sur le monde, sur la vie, mais tout près de lui, sur ses propres salariés. Et c'est un petit peu dommage, quand on est le roi de la com, de louper sa propre com. À moins que les choses aient un peu changé. L'alternance, ça vous dit quelque chose, l'alternance? Les gars, il va falloir la jouer plus discrète. Hein? Fini les paillettes, le bling-bling, le vernis, l'exhibition, etc. Il va falloir... Non. Il va falloir la jouer à l'ancienne, vous savez, le vieil argent. Quand ça se voit pas, quand c'est discret. Oui, derrière les murs. Habillez-vous d'une façon ordinaire. Un jean avec des trous, voilà, ça c'est une bonne idée. Ça fait ouvrier, ça fait modeste, ça fait normal. Redevenez normal. Ils sont furieux. Mais soyez rassurés, aujourd'hui, il n'y a plus de communistes en France. Oui, non, il n'y a plus de communistes en France. Ça, c'est ce que François Hollande a dit au Guardian, vous vous souvenez de ça? Et il a ajouté, François Hollande, au même Guardian, le journal britannique, « La gauche a été au pouvoir pendant 15 ans, au cours desquels nous avons libéralisé l'économie et ouvert les marchés à la finance et aux privatisations. Il n'y a rien à craindre !» a dit François Hollande à la City et au journal de centre-gauche Le Guardian. Il n'y a rien à craindre, simplement il faut changer un petit peu les choses, c'est aller trop loin, le fouquet, c'est trop... Écoutez, il faut changer ça. Or, voilà qu'il y a une victime là-dedans, c'est Momo, c'est Maurice, le roi de la com, qui lui date de cette époque-là, représente cette époque-là, d'une façon donc... On a demandé à Momo de la fermer et de se faire oublier pendant un certain temps. Voilà. Et c'est ce que nous avons suivi. Et c'est ce qui nous a passionnés, ce qui nous a intéressés avec Gaylor van Wimersch. Et surtout, ce qui nous tient à cœur, il faut bien le dire, c'est de vous réconcilier avec vos élites. Parce que pour l'instant, il y a une disgrâce, enfin, une discrétion, disons, de Maurice Lévy qui lui est demandé et qu'il assume, bien évidemment. Mais n'oubliez pas que c'est un grand homme. Et sans lui, sans des gens comme celui-là, comme nos grands patrons, comme nos riches, nous ne serions rien, vous et moi. Maurice le vaut bien, c'est jusqu'à 16h, c'est la basse vision.
Les riches... Parle de ceux-là qui gagnent autant de fric, les riches. Tant que 10 trésors ou 200 fois le SMIC, les riches. Ils font les jolies femmes de la pub L'Oréal, les riches. Parce que je le vaux bien pour la femme idéale, les riches. Bétancourt milliardaire est-elle féministe, les riches. Nous protégerait-elle contre les communistes, les riches. Laurence Parisot remporte la médaille, les riches. Et un seul ennemi, le code du travail, les riches. Un ouvrier se tait, il bosse et fait du chiffre, les riches. Il gardera les miettes, mais pourvu qu'on s'en pifre. Les riches s'intéressent aux médias, la télé, les journaux, les riches. Regardez par exemple Lagardère ou Dassault, les riches. Lorsque les marchands d'armes deviennent journalistes, les riches nous protègent contre les communistes, les riches. Les riches défendent le pétrole comme les droits de l'homme, les riches. Et qui travaillent pour Shell, British Petroleum, les riches. L'important au final, c'est bien le bénéfice, les riches. L'esclavage est partout, mais le fric est en Suisse. Les riches, dictature ou business, chaque chose profite, les riches. Total en Birmanie, ben c'est la junte qui invite, les riches. On peut faire du fric même avec des fascistes, les riches.
Monsieur Benoît Roger-Vasselin, une petite délégation sera reçue par le directeur des ressources humaines du groupe Publicis.
Ouais, on va les faire plier.
Bonjour Eric, on va se mettre un petit peu là parce que sinon on va être coincé. Bon, on va monter les marches. Voilà, là on est bien, on est juste devant l'entrée.
Voilà, du 133 qui est bien gardé par quelques policiers en civil.
Ah oui, j'avais pas vu.
Oui.
Là, j'ai le reflet de la vitre, si je me penche, effectivement, il y a...
pas mal de gens avec des talkie-walkie qui sont en fait des policiers en civil.
D'accord, c'est pas des membres de la sécurité de Publicis.
Non, il y a aussi des membres de la sécurité, mais eux n'ont pas normalement de talkie-walkie.
Alors vous, vous faites quoi au sein de Publicis ?
Moi, je suis depuis 10 ans dans le groupe. Je suis créatif et je suis en même temps élu CGT et délégué du personnel.
Alors là, vous avez un petit verre de champagne que vous avez presque vidé. Presque c'est l'apéro, il est 13h30. On est sur les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde, devant le siège de Publicis. Vous trinquez à quoi ?
Alors je trinque au faramineux bonus qui a été versé à notre patron. En tant que salarié de Publicis, je trinque à sa santé et je lui souhaite bonne chance avec ces 16 millions qu'il vient de toucher. Mais j'aimerais quand même attirer son attention sur le fait que parmi les salariés du groupe Publicis, il y a énormément de gens qui n'ont pas eu d'augmentation depuis des années et des années. On peut même dire que c'est l'écrasante majorité. Et pour ceux qui ont eu quelques augmentations à certains moments, on peut dire que ce sont des cacahuètes, puisque je peux donner quelques exemples. J'ai des collègues de bureau cette année qui ont touché 100 euros bruts après 5 ans sans augmentation. Le groupe Publicis, qui engrange quand même 600 millions d'euros de bénéfices par an, a eu la malhonnêteté de verser une prime dite Sarkozy inférieure à la moyenne du CAC 40 cette année. La prime Sarkozy, c'était, vous savez, la prime qui était réservée aux entreprises qui avaient augmenté les dividendes de ses actionnaires. On a négocié et on a malheureusement obtenu une somme, on va dire dérisoire au vu des bénéfices du groupe, puisqu'on a obtenu 350 euros par salarié.
Alors Eric, moi ce que je comprends pas, c'est que on a là quelqu'un qui a fondé un empire de la publicité, quelqu'un qui a généré de l'emploi, qui a fait marcher l'économie française pendant des années, et aujourd'hui vous lui tapez sur les doigts.
Non, on lui tape pas sur les doigts, on lui dit simplement « Maurice, rappelle-toi que tu n'es pas le seul à pouvoir bénéficier des fruits de cette croissance extraordinaire. Il y a également des salariés qui ont contribué et il faudrait peut-être pas les oublier ceux-là parce qu'eux aussi contribuent à la richesse du groupe. »
Moi, on m'a dit que c'était idyllique. Hein. Avant que je vienne ici ce matin, on m'a dit que c'était une entreprise modèle Publicis. Jamais j'ai entendu parler de lutte sociale chez Publicis.
Non, parce que les luttes sociales sont cachées et effectivement assez peu de, on va dire, de combativité, parce que déjà les syndicats sont des gens peu fréquentables chez Publicis, parce qu'on considère que c'est une entreprise un petit peu au-dessus de la mêlée, qui est justement un modèle social, ce qui n'est pas le cas, et qu'on n'a pas besoin forcément des syndicats pour défendre les salariés.
Alors au niveau des conditions de travail,
Les conditions de travail, elles sont un petit peu comme dans toutes les entreprises de la publicité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire, on est capable de vous dire de travailler un week-end s'il le faut, de finir à 11h s'il le faut, sans aucune compensation. Il faut savoir aussi que dans ce groupe, à certaines périodes de l'année, il y a jusqu'à 35% des effectifs qui sont constitués de stagiaires.
C'est bien, les stagiaires.
Oui, c'est bien, c'est très bien.
C'est la jeunesse qui arrive.
C'est la jeunesse qui arrive jusque dans une certaine proportion, c'est-à-dire qu'on peut se dire qu'une entreprise normale peut tourner avec 10% de stagiaires. Quand on est né à des taux de 35%, il faut peut-être s'alarmer.
Pour revenir à la rémunération de votre patron, de Maurice Lévy, qu'est-ce qui vous gêne là-dedans ?
Ce qui a profondément choqué les salariés, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, cette prime était versée à un moment où ça correspondait à une période électorale où Maurice Lévy, en l'occurrence, risquait d'être taxé à 75% par les projets de M. Hollande. Et c'est ce qui a été profondément choquant, c'est qu'en fait, il s'est empressé de les toucher pour pouvoir échapper à cet impôt.
Mais alors, également, moi, j'ai le souvenir d'un Maurice Lévy qui avait fait une tribune, pas seul, avec d'autres patrons du CAC 40.
Oui, 16, le groupe des 16, comme on l'appelle.
C'était 16 grands patrons qui avaient fait une tribune dans le Nouvel Observateur, si ma mémoire est bonne, je crois.
Qui s'appelait Taxez-nous plus et qui invitait l'État, en fait, à taxer provisoirement les plus grosses fortunes en France pour aider à combler la dette du pays. On a l'impression qu'il y a une espèce de schizophrénie qui a opéré et qu'au bout de quelques mois, il s'est peut-être rendu compte que ça valait peut-être plus le coup toucher tout de suite les 16 millions que d'en donner trop à l'État et que du coup, il avait un peu oublié que la dette du pays était importante et qu'il fallait y contribuer.
En août dernier, vous avez fait partie de ces patrons qui ont publiquement dit vouloir payer plus d'impôts, qui trouvent ça normal en période de crise, et ça on ne peut pas le contester. Vous gagnez beaucoup d'argent et vous acceptez d'en donner davantage.
RTL.
Pour aider la France, en gros.
14 avril 2012.
Et puis vous êtes vent debout contre la proposition de François Hollande de taxer à 75% les revenus annuels de plus d'un million d'euros. C'est cette année donc que vous allez toucher votre bonus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette contradiction ?
Ce n'est pas une contradiction.
Maurice Lévy.
J'ai appelé, c'est moi qui ai lancé cet appel. Mm-hmm. Je l'ai écrit d'ailleurs le 13 août au matin. J'ai appelé à ce qu'il y ait des contributions supplémentaires des gens qui sont bien lotis, qui ont bénéficié de la vie, qui ont réussi quelque chose, et je pense que c'est normal qu'ils contribuent davantage. Et donc, je suis d'accord pour aller même au-delà de ce qui a été prévu par les textes d'août. Et puis, il y a la proposition à 75%. 75 plus CRDS, plus CSG,
83%,
ça fait 80 et quelques pourcents, plus un petit peu d'ISF, ça fait 95% à peu près. Ça veut dire qu'il reste 5%. Je suis favorable à ce qu'on paye davantage et je suis prêt à le faire et je pense que c'est une bonne chose que nous le fassions. Je suis opposé à la confiscation des fruits du travail.
Bon, voilà sur la ligne 3 du métro parisien, une ligne qui traverse Paris du nord-ouest à l'est, plein est. Et on a rendez-vous à la station Bourse, en plein cœur de Paris, pour rencontrer des employés du groupe Publicis, du groupe de communication et de pub Publicis, dirigé par Maurice Lévy. Voilà, on est dans le quartier Bourse, dans le premier arrondissement de Paris. Et là, on se dirige vers une des filiales de Publicis qui s'appelle Publicis Consultant. Une entreprise prospère, une entreprise qui, sous la direction de Maurice Lévy, a multiplié par 10 son chiffre d'affaires, le faisant passer de 560 millions d'euros à 5,8 milliards. Et ça, en seulement 16 années. Mais également, qui a multiplié ses bénéfices par 26, passant de 23 millions d'euros à 600 millions d'euros. On peut aussi citer une implantation qui est passée de 15 pays seulement il y a 16 ans, il y a une vingtaine d'années, à plus de 100 pays aujourd'hui. Allez, encore deux autres chiffres. Depuis que Maurice Lévy a pris la tête de l'entreprise en 1996, le nombre d'employés est passé de 6 000 à 50 000 collaborateurs dans le monde entier. Et un dernier chiffre pour la route, la capitalisation boursière de l'entreprise a été multipliée par 20 en 16 ans seulement. Voilà, ça vous donne un petit peu une aperçu de l'essor de cette entreprise sous la direction de Maurice Lévy, une entreprise qui est devenue une championne mondiale de la communication et de la publicité.
Et voilà.
Votre bureau ici?
Oui.
Tout en open space?
Oui.
Je vous laisser vous présenter vous-même.
Bonjour, je suis Micheline, je suis chez Publicis depuis 34 ans. Je suis à l'agence depuis février 76, d'une petite PME, allons-nous dire, française. Maintenant, nous sommes le troisième groupe mondial. Donc, ça m'inspire énormément, mais énormément de respect pour les patrons qui sont à la tête de l'agence. Je dis les patrons parce que j'ai eu la chance, l'immense fierté de connaître Monsieur Marcel Bleustein-Blanchet.
Qui est, il faut le rappeler,
le fondateur de l'agence Publicis. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de phénoménal, hein, puisque à l'époque, j'étais qu'une petite secrétaire. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer Maurice Lévy lors d'un dîner ou d'une réunion. Pour moi, c'est une chance parce que 54 000 collaborateurs, je ne sais pas si on est beaucoup à l'avoir vu, à qui on a serré la main. Parce que nous, les Français, on est toujours en extase devant des grands hommes comme ça. Moi, je dis que c'est un grand homme.
Vous n'éteignez pas la lumière, c'est un peu de ça.
Non,
là, on est dans votre bureau, on ne va pas parler trop fort parce qu'il y a vos collaborateurs qui travaillent. Donc, vous pouvez me décrire un petit peu l'endroit.
Eh ben, je travaille sur un plateau en open space. Je suis entourée de collaboratrices de différents départements.
C'est un endroit assez aéré, assez lumineux.
Ce qui donne un aspect très sympathique quand on arrive à l'agence.
Parce que vous êtes bien, il y a des plantes vertes, etc.
Oui, un très très bel endroit, bien agencé. Ben voilà, les plantes,
petit coin, cafetière.
Et là, vous êtes agencé votre coin.
C'est mon coin. Et comme vous pouvez le voir, il y a le président fondateur qui est en photo.
Ah oui, où ça? Ah, alors c'est qui?
Marcel Bessel-Blanchet.
Qui est le président fondateur de Publicis.
Oui.
Et là, c'est vous à côté. Hein.
À côté, absolument.
Vous étiez jeune?
Et oui.
Donc c'est des photos en noir et blanc. On voit, c'est une réception. Hein. Il y a des coupes de champagne.
C'était pour me remettre ma médaille après 15 ans d'agence. C'était quelqu'un qui était très proche de ses collaborateurs. Notre père, un toutous. Voilà, quand j'ai un petit coup de blues, je le regarde et je me dis, ça repart. J'ai pas pris mon badge.
Je vous tiens la porte?
Oui.
En pleine campagne électorale, Publicis annonce qu'elle va verser à son patron la bagatelle de 16 millions d'euros.
RTL.
En plus de son salaire variable.
27 mars 2012.
Et ce au titre de ce qu'on appelle chez Publicis une rémunération différée. Il faut rappeler que ce patron, c'est Maurice Lévy, qui faisait justement partie des grands patrons qui s'étaient déclarés volontaires pour payer plus d'impôts à l'automne.
Donc, on récapitule. Pas de salaire fixe, mais un variable pouvant atteindre 5 millions, plus des actions, plus des stocks options, plus de 6 millions d'euros l'année dernière, plus ce bonus exceptionnel de 16 millions, sans oublier l'indemnité de départ, déjà prévue pour 2017, qui dépasse les 5 millions d'euros. Sur tout ça, Maurice Lévy devrait bien sûr payer des impôts, il sera taxé à 41% et la somme qui lui restera sera soumise à l'impôt sur la fortune, sauf bien sûr s'il trouve quelques petites niches fiscales. Je rappelle que Maurice Lévy est contre la nouvelle tranche d'imposition à 75% préconisée par François Hollande.
Bon, là, il y a eu cette énorme polémique concernant les 16 millions d'euros. Maintenant, il n'a pas volé son argent. Hein. Alors, évidemment, ça nous paraît des sommes, nous, complètement surdimensionnées, mais quand on voit qu'un footballeur va gagner pratiquement cette somme-là par an, il est tout seul.
C'est un peu comme si on avait demandé à un footballeur, appelons-le Ronaldo ou appelons-le Zidane, d'être chaque année le meilleur buteur du monde et que les primes de match, il ne les percevrait qu'au bout de 9 ans. C'est ça qui s'est passé. Si j'avais reçu mes primes de match chaque année, personne n'en aurait parlé.
Maurice Lévy fait quand même vivre, entre guillemets, 50 000 personnes. Est-ce que Publicis serait troisième groupe mondial si on n'avait pas eu à la tête un Maurice Lévy? Je ne sais pas.
Je peux vous demander une question indiscrète qu'on ne demande jamais en France. Combien vous gagnez?
Pas beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
Une petite échelle?
Je vais vous dire entre... Qu'est-ce que je vais vous dire? Entre 2,8 et 3,5, entre 2 800 euros et 3 500 euros. À aujourd'hui, ce qui fait aussi, c'est qu'il y a quand même la crise qui est là, la récession, on ne peut pas s'en cacher. Donc, bien sûr, on aurait aimé que Maurice Lévy prenne tout son argent, mais peut-être faire un geste comme le patron de chez Volkswagen.
Qu'est-ce qu'il a fait, le patron de chez Volkswagen?
En fait, je crois qu'il a dû gagner dans les 12 millions d'euros. Et puis, il a dû donner à chaque collaborateur 1 500 euros.
Vous auriez aimé
Je pense que ça aurait été une prime pour tous les collaborateurs. Étant donné que depuis des années, malgré les crises, malgré même là la récession, le groupe arrive quand même à toujours à faire de la croissance. Donc, s'il y avait un petit retour aussi sur les collaborateurs, même le plus petit, il contribue au succès de l'agence, moi je dis. Et voilà, on a quand même cette chance d'appartenir à un énorme groupe. Quand je suis arrivée chez Publicis il y a 34 ans, Publicis, pour moi, ça ne me parlait pas trop. Et puis après, c'est ça, dans votre entourage, tu travailles chez Publicis, c'est super. Parce que la publicité, ça fait toujours rêver, c'est comme au cinéma, tout le monde sait que je suis à 400% pour le groupe. Donc ils savent que j'ai commencé, je finirai ma carrière ici.
Ça se traduit par quoi, être à 400% pour le groupe?
Eh bien, j'aime pas trop qu'on me critique mon patron, ou qu'on me critique l'agence, ou voilà. On peut pas critiquer sinon on part. Ça veut dire quoi? On est là pour travailler. à la fin du mois, c'est quand même Publicis qui nous paie. Tout le monde sait que je suis quand même pas accro à Publicis, mais presque.
Ah oui, vous diriez ça, accro à Publicis.
Bah oui, pourquoi pas. Moi, j'aime ma boîte, voilà.
Et si tu aimes ton entreprise, il est grand temps que tu le dises. Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui. Alors laisse tomber ta cravate, aujourd'hui tout le monde s'éclate. Oh, oh, oh. J'aime ma boîte, oh, oh. J'aime ma boîte, oh, oh. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, oh, oh. J'aime ma boîte. C'est le troisième jeudi d'octobre, et bientôt partout en Europe. Ça ne dure qu'une seule journée, on s'en souvient toute l'année. Il est grand temps de faire la fête et de répéter à tue-tête. Oh, 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 j'aime ma boîte, oh, oh, oh. J'aime ma boîte, oh, oh, oh. J'aime ma boîte, j'aime ma boîte, oh, 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 oh. J'aime ma boîte, oh, j'aime ma boîte. J'aime ma boîte, oh, oh, oh.
Nous voilà dans l'Est parisien, on est à Porte de Montreuil et on a rendez-vous à la CGT, au siège de la CGT, la Confédération Générale du Travail.
Alors voilà, voilà l'ambiance, voilà ce que vaut Maurice le vaut bien. Je rappelle, notre démarche avec Gaylor Van Wimerge, c'est de réhabiliter en fait nos élites avec lesquelles il y a de l'eau dans le gaz, il faut bien le dire. Les Français n'aiment pas leurs élites, il faut nous réconcilier avec nos élites, vous réconcilier avec vos élites, toutes les élites intellectuelles, économiques, politiques également. Il y a vraiment un clivage là qui s'est creusé. Et aujourd'hui, on est venu au secours, vous avez compris, de Maurice Lévy, l'extraordinaire patron de Publicis, énorme boîte indispensable, qui a créé des emplois, qui a fait de la croissance, qui est enfin indispensable. On ne saurait pas vivre sans ce genre d'entreprise, ni sans ce genre de patron, et qui actuellement, sous prétexte, vous avez compris, d'une prime tout à fait méritée, au même titre que celle attribuée aux footballeurs, il y a eu cette... Et c'est assez curieux quand même que ça intervienne précisément, alors que... Les socialo-communistes viennent d'arriver au pouvoir.
Romain Altman, secrétaire général adjoint d'Infocom CGT, en charge de l'activité syndicale dans le groupe Publicis.
Revenons à la rémunération de Maurice Lévy, une rémunération différée où il a empoché 16 millions d'euros. Quelle réaction vous avez eue ?
Ce qui est scandaleux, c'est pas que Maurice Lévy touche plus que les autres salariés. Ce qui est condamnable, c'est que les répartitions de la richesse n'est pas équitable. C'est-à-dire que les salariés eux-mêmes n'en bénéficient pas, ne serait-ce qu'un peu. Je donne juste ce chiffre-là. Les 16 millions de Maurice Lévy, ça représente quelque chose comme pas loin de 11 500 SMIC. 11 500 SMIC, alors que dans toutes les agences, ne serait-ce qu'en France, il n'y a pas eu une seule augmentation collective à Publicis depuis plus de 5 ans. Le véritable scandale de cette affaire, bon, il y a le volume et le montant du salaire de Maurice Lévy, mais il y a un autre aspect que d'ailleurs la presse a eu raison de dévoiler, c'est qu'il y a eu des méthodes et des pratiques en vue de faire pression sur des salariés en les invitant soit à signer un texte ou une pétition, soit à leur apporter spontanément, parce que Maurice le vaut bien, un mot de soutien.
Alors là, vous faites allusion à une lettre, une pétition, qui aurait été en fait diffusée par la direction à destination en fait du personnel de Publicis pour soutenir Maurice Lévy et approuver la rémunération du patron.
La réalité des faits, c'est que voilà, plusieurs managers ont tenté et ont fait signer des salariés dans leur bureau en tête-à-tête en disant « tu comprends, il faut défendre Maurice parce qu'il est mal, il est pas bien, le pauvre il vient de toucher de 16 millions d'euros, donc il est vraiment au fond du trou Maurice. Donc toi qui gagnes que 1500 ou 2000 euros, ça serait bien que tu apposes ta signature pour montrer qu'on le soutient parce que les médias l'attaquent, parce que même François Hollande avait dénoncé cette rémunération. Donc on est vraiment là au cœur d'un système patronale dans sa relation inégale avec ses salariés pour éviter que le scandale et la com qui a été très mal géré autour des 16 millions d'euros s'amplifient sur la polémique du bonus de Maurice Lévy.
Bonjour madame, je ne sais pas si vous connaissez Maurice Lévy, le publicitaire. Maurice Lévy fait la publicité pour le groupe Carrefour. Il vient de gagner 16 millions d'euros. Et comme je crois savoir que chez Carrefour, il va y avoir peut-être des suppressions d'emplois, c'est ça ?
Ouais.
Vous êtes au courant qu'il y a certainement un plan de licenciement qui va avoir lieu, en tout cas de suppression de postes.
Mm-hmm.
Je me suis dit qu'il pouvait peut-être acheter des emplois chez Carrefour. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense qu'à mon avis, c'est le dernier de ses soucis, quoi.
Il n'y a pas pensé ?
Non.
Bon, et si moi je lui soumets l'idée, j'ai fait le calcul, en fait, il pourrait racheter 500 emplois au SMIC pendant un an. Ça veut dire qu'il sauverait, en gros, un poste sur 10 si on part du principe que 5000 postes vont être supprimés chez Carrefour. C'est pas mal, hein ?
Ah, c'est très bien. Si vous pouvez vous écouter, ce serait bien.
3,70€ seulement. Les 3 steaks hachés Carrefour, 100% pur bœuf origine France, moins de 5% de matière grasse. On a droit à la qualité, même quand on paye moins cher.
Carrefour.
La qualité
pour tous.
Eh bien, je suis Sophie de Menton, je suis présidente d'un mouvement patronal qui s'appelle Éthique, entreprise à taille humaine, indépendante et de croissance. Je suis chef d'entreprise, je suis membre du Conseil économique, social et environnemental et j'ai de multiples activités autres en tant qu'écrivain en particulier.
Donc on est dans votre bureau ici, dans votre société patronale Éthique. Donc Sophie de Menton, vous avez signé récemment une tribune sur un site internet qui s'appelle « Pour le MEDEF, le changement, ça devrait être aussi maintenant ». On a changé de dirigeant, on a changé de sensibilité politique. Il faut donc que le patronat se trouve de nouveaux émissaires pour pouvoir être en mesure de négocier avec ce gouvernement socialiste. Parce que Maurice Lévy, qui est à la tête de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et Laurence Parisot, qui est à la tête du MEDEF, se sont disqualifiés récemment.
Maurice Lévy, qui est un homme et un patron que j'admire, qui a fait un boulot extraordinaire, il a fait une gaffe gigantesque, incompréhensible, surtout pour un homme qui fait de la communication et qui est supposé d'ailleurs comprendre parfaitement la sensibilité de l'opinion publique, etc. Je ne vois pas comment, face à un gouvernement qui malheureusement, mais ça va certainement changer, a quand même été très hostile à l'univers des capitalistes, entre guillemets, du monde de l'entreprise. Comment est-ce que cet homme qui a choqué au moment d'une campagne électorale va être l'interlocuteur des patrons français ? Difficile. Et je pense qu'il comprendra lui-même qu'il faut qu'il donne sa démission, parce que il est formidable, il a 70 ans, il a fait une carrière extraordinaire, et c'est difficile. Peut-être que donc, faut-il qu'il laisse la place ?
Vous voulez dire qu'il est indésirable ?
Je pense qu'il n'est pas le bon interlocuteur pour représenter les patrons aujourd'hui. C'est une question de décence, son attitude. Il a manqué de décence à un moment et tout le monde peut faire une gaffe.
Hermès, bonjour.
Oui ?
En fait, je voulais me renseigner pour des ensembles, chez vous, pour hommes. C'est pas pour moi, hein, c'est pour une autre personne. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein.
On peut aller très très haut en budget, avec des pièces exceptionnelles où on va avoir des manteaux en vison à 34 000, des blousons en crocodile à 55 000.
Bon, lui, il pourrait en acheter plein. C'est quelqu'un qui vient de gagner beaucoup d'argent, qui vient de gagner 16 millions d'euros.
Bah oui, je me doute bien. Je veux se refaire une belle garde-robe de luxe. Vous me dites, en fonction des disponibilités de monsieur, des envies de monsieur.
Parce que moi, j'ai du mal à lui donner une fourchette pour ses dépenses chez vous. Je sais pas si je dois lui dire autour de 300 000 ou je sais pas.
À 300 000, c'est qu'il aura fait déjà un beau tour du magasin. Oui, ce serait un beau budget déjà.
Voyage d'Hermès sur les ailes du parfum.
Bonjour, le Club Med vous souhaite la bienvenue.
La Madame Lafayette, c'est là, bonjour.
Je suis gestionnaire de fortune et c'est un client très riche qui voudrait passer du temps, tout frais compris en fait. Il vient d'avoir beaucoup d'argent et il voudrait rester longtemps dans le Club Med.
L'île Maurice, ça pourrait être une belle destination. En même temps, prendre une villa, il y aura majordome à disposition.
Il y a un chauffeur ?
Tout est possible.
Alors, ça serait quoi les tarifs ?
Par exemple, pour une semaine, c'est 36 000 euros.
36 000 euros la semaine ? Alors, parce que pour rien vous cacher, en fait, c'est quelqu'un qui vient d'avoir 16 millions d'euros.
Oui.
36 000 euros la semaine, vous m'avez dit. Là, par exemple, moi, j'ai calculé, ça ferait 8 ans en pension complète à l'île Maurice, dans la villa. Vous faites des longues périodes ?
Oui, quand vous dites un long séjour.
Ouais, plusieurs années. Est-ce qu'on peut rester plusieurs années dans votre club ?
Oui, tout est possible au Club Med.
Club Med, tous les bonheurs du monde.
Elisabeth Bellinfer et de celui de monsieur...
Bon, nous voilà
entrée à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Publicis. On est dans un grand auditorium, au siège de Publicis sur les Champs-Élysées. Alors c'est une grande salle avec un écran blanc et le logo de Publicis qui a collé un petit peu partout derrière la tribune, sur les pupitres. Le logo, c'est un soleil doré et c'est marqué Publicis Group. Voilà, c'est une très belle présentation qui est très solennelle. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'actionnaires en costume cravate. Et à la tribune, eh bien, il y a Maurice Lévy, le PDG de Publicis, qui est accompagné d'Elisabeth Badinter, la femme de Robert Badinter, féministe, philosophe, et aussi présidente du conseil de surveillance de Publicis.
Je donne maintenant la parole à Maurice Lévy, président du directoire.
Merci Madame la Présidente. Bonjour Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous retrouver et de vous présenter l'année 2011 qui s'est inscrite comme une nouvelle année de croissance pour le groupe Publicis. Nous avons eu un revenu de 5,816 milliards d'euros en augmentation de 7,3%, une marge opérationnelle qui a atteint 931 millions d'euros et un résultat net qui atteint un record pour le groupe Publicis de 600 millions d'euros en augmentation de 14,1%. Nous avons un bilan d'une solidité tout à fait remarquable. Et puis, un élément très important. Nous sommes et nous restons une société dont le fonctionnement est marqué par son origine familiale. Ça veut dire que nous faisons attention à tout, à l'aspect humain, à l'aspect social, aux dépenses, et nous sommes extrêmement rigoureux. Je vous remercie et je passe la parole à la présidente du Conseil de surveillance.
Merci Maurice. À présent, vous avez, messieurs et mesdames, la parole et nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.
Alors, numéro 2, oui, s'il vous plaît.
Bonjour, monsieur le président. Je ne suis pas choqué par votre rémunération de 16 millions. Par contre, je voudrais savoir, est-ce que c'est un choix de votre part de rémunérer en différé sous certaines conditions?
Merci, monsieur. Sur la rémunération différée, c'est clair que cette rémunération différée fait un montant important et que si elle avait été versée annuellement, je n'aurais pas été le patron le plus payé du CAC 40 et on n'aurait pas fait tout ce bruit autour. C'est une proposition qui m'a été faite par le conseil de surveillance. Et tous les actionnaires autour de la table considéraient qu'il était préférable que je reste. Et pour me retenir, ils ont décidé de prélever une partie de ma rémunération et de la garder pour ne me la donner qu'au bout d'un certain nombre d'années. J'ai accepté. C'est un système qui est vertueux.
Bonjour, monsieur Lévy. Je viens vous voir parce que je suis journaliste à France Inter et malgré
tout. Allez, journaliste, je suis désolé. Non, nous sommes dans une réunion d'actionnaires.
Je sais très bien.
Non, je suis désolé.
Une simple question.
Et vous, les
est-ce qu'on pourra se voir après dans ce
cas-là? Selon mon bon vouloir.
Mais puisque ça fait un mois que je demande des interviews.
Mais parce que je n'ai pas envie de vous voir, peut-être.
Ah bon?
Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pour l'instant, mes actionnaires d'abord, s'il vous plaît.
Une question, par exemple.
Non.
On n'a pas parlé, par exemple, des salariés de Publicis.
Monsieur,
que j'ai
s'il
rencontré.
Vous plaît. S'il vous
on n'a pas parlé des salariés de Publicis.
S'il vous plaît. Merci. Monsieur?
Bon, comme vous l'avez entendu, Maurice Lévy m'a pas laissé poser ma question. Et on vient de me reprendre le micro des mains. Là, on est passé au moment clé de cette réunion générale des actionnaires chez Publicis. C'est le vote des actionnaires. Donc, une petite musique, comme dans les jeux télévisés. Et les participants ont 12 secondes pour voter pour les différentes résolutions à l'ordre du jour dans cette assemblée générale des actionnaires de Publicis. Ils ont tous à la main, comme dans un jeu télévisé, des petits boîtiers pour dire répondre par oui ou par non.
Le vote est clos. La résolution est adoptée à 99,1%.
Voilà, l'assemblée générale vient de se terminer. Et on va descendre à la tribune, solliciter le bon vouloir de Maurice Lévy, comme il me l'a dit tout à l'heure. Voilà, on est devant le podium, là. Il y a plusieurs confrères, journalistes qui l'interviewent. On va essayer de passer.
C'est le jeune collègue qui est là-bas, en fait.
Non, c'est vrai, je peux pas passer?
Non, je peux pas passer. C'est ça? Pourquoi?
Bon, bah là, je suis bloqué. Alors ça, c'est fort, quoi.
Bon, en gros, là, j'ai trois gars autour de moi, trois gars de la sécurité, de Publicis, qui me bloquent le passage et qui veulent m'empêcher d'accéder à la tribune où il y a Maurice Lévy.
Vous vous demandez à la personne pourquoi moi, j'ai pas le droit de faire l'interview ?
Bah, vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît. Là, il faut une interview. Moi, je peux pas passer. Pourquoi ? Il faut que quelqu'un me réponde, quoi. Moi, je ne vais pas rester là.
Oui, si vous avez raison.
Ah, voilà, dites venir. Donc, finalement, il y a une femme qui était à mes côtés et qui a fait un signe à l'attaché de presse. Je ne sais pas trop ce qu'elle lui a dit. Mais apparemment, voilà, on va me laisser passer. Donc, c'est bon, je suis devant le podium, pas très loin de Maurice Lévy. Voilà, je vais enfin pouvoir poser une question à Maurice Lévy.
D'accord. Je peux monter. Merci.
RDS, de la CSG et des 75%, je ne suis pas sûr qu'il reste quoi que ce soit. Moi, je suis favorable à une augmentation de la pression fiscale, je l'ai dit de manière très nette et je reste favorable.
Merci. Merci à vous.
Moi, j'aurais une question sur justement l'AFEP. Vous êtes président de l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, et justement, au sein de l'AFEP, en ce moment, il y a un petit peu une fronde, non pas contre vous.
Écoutez, posez votre question.
Alors, ma question, c'est justement, vous-même, vous êtes mis en position défavorable avec cette question de la rémunération. Et donc, la FEB chercherait, le patronat en tout cas, des interlocuteurs, des intermédiaires plus favorables avec le gouvernement.
Désolé, on n'est pas à la FEB, c'est l'Assemblée de Publicis. Donc, cette question.
Non, mais je vais répondre à la question. D'accord. Je vais répondre à cette question. Il y a un conseil d'administration, vous avez des membres du conseil d'administration, je vous conseille de les appeler, ils vous diront si oui ou non qu'il y ait des gens qui sont en dehors de la FEP, qui sont au MEDEF ou qui sont ailleurs et qui expriment des opinions, c'est la liberté complète. Mais à ma connaissance, je n'ai pas eu une seule remarque venant d'un adhérent de la FEP. Donc c'est tout.
Vous allez rester à la tête de la FEP.
C'est ma réponse. Je n'ai pas eu une seule remarque à ce jour venant d'un adhérent de la FEP. Pas une seule.
Et moi, mon reportage porte sur les salariés de Publicis, notamment, puisque c'est...
Vous posez des questions sur la FEP. Alors, arrêtons maintenant. Ça y est,
je ne peux pas vous poser une question sur Publicis.
Il fallait commencer par ça. Laissons, on ne va pas continuer indéfiniment. D'autant plus que moi, je continue mon conseil maintenant. À 13h, on a le conseil qui démarre.
Oui. Ça, c'était l'heure de l'Assemblée des actionnaires de Publicis, mais depuis, hélas, ben oui, je sais, c'est une triste nouvelle. Soyez courageux, amis auditeurs, amis de là-bas, si j'y suis. Maurice Lévy a démissionné. Voilà, c'est terrible, il a démissionné de la FEP. C'est un petit peu ce que disait Madame de Menton tout à l'heure. Cette démission marque l'échec de l'exposition médiatique qu'avait souhaité donner Maurice Lévy, un lobby patronal jusqu'ici marqué par sa discrétion, voire son secret. Et Maurice Lévy avait été critiqué par nombre de patrons, eux-mêmes, l'été dernier déjà par la publication dans Le Monde d'une tribune dans laquelle il appelait les plus hauts, les plus aisés à payer davantage d'impôts. Voilà de quoi je me mêle, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc on le voit, le roi de la com s'est planté dans sa com, Maurice Lévy, troisième patron le mieux payé de France en 2011, derrière Bernard Arnault et le patron de L'Oréal, eh bien, a quitté la FEP. Il n'a pas du tout quitté son poste. Rassurez-vous, ces diverses rémunérations. Il touchera ses 16 millions d'euros comme prévu. Mais enfin, voilà, il a dû démissionner de la FEP. J'espère que ça ne vous gâche pas trop votre vendredi et que vous passerez tout de même, malgré tout, chers AMG, un bon week-end.
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants. Et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vrombir des imprimantes. Et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
C'est
C'était une nouvelle diffusion de Maurice Le Vaubien, un reportage de Gaylor Van Wimersch. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » sur le site la-bas.org, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Martin Guénard et Ronan Mahé. Cette émission a été réalisée par Bertrand Chaumeton, Franck Aderer et Lucie Hakoun. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis ». Notez bien au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37.
Ma belle plante, oh belle plante, dans mon salon t'es pétillante. Adieu sapin, guirlande et boule, une nouvelle plante c'est bien plus cool. Ma belle plante, dans mon salon t'es pétillante.
Toute la France participe. Allez hop, bye bye vieux sapin, hello jolie plante. Découvrez votre successeur de sapin sur maplantemonbonheur.fr.
France Inter présente The Master, un film de Paul Thomas Anderson, prix du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise. Avec Joaquin Phoenix et Philippe Seymour Hoffman, double prix d'interprétation, au cinéma le 9 janvier. Au début des années 50, Freddy, un ancien soldat tourmenté, fait la rencontre de Lancaster Dodd, écrivain et philosophe charismatique, The Master.
I know you're trying to calm me down, but just say something that's true.
Un portrait d'êtres à la dérive, en quête de sens, dans l'Amérique d'après-guerre. Retrouvez Paul Thomas Anderson demain à 10h dans On aura tout vu.
Dans quelques minutes, Sylvie Chapelle, on parle musique. Bon après-midi sur France Inter, il est 16h. Les informations avec Laetitia Gaillet, bonjour.
Bonjour, peut-être du nouveau dans la tuerie de Chevaline. La police française de Haute-Savoie souhaiterait interroger l'auteur de la tuerie du canton suisse de Valais mercredi soir. Elle s'interroge en effet sur un éventuel rapport entre cette tuerie et celle survenue ces dernières années dans la région, donc dont celle de Chevaline près d'Annecy. Il y aurait en effet des similitudes. L'arme utilisée par exemple à Chevaline était utilisée dans les années 30 dans l'armée suisse et le tueur du canton de Valais s'est servi lui aussi d'une ancienne arme de l'armée suisse. Voilà qui ne va pas plaire à ceux qui dénoncent la taxation des plus riches. Suivez mon regard. 6 Français sur 10 sont favorables à la mise en place d'un impôt pour les contribuables les plus aisés en France. Mais selon le sondage BVA pour iTélé paru aujourd'hui, il la placerait à moins de 75%. L'enquête a été réalisée par Internet hier et aujourd'hui. En tout cas, Gérard Depardieu, lui, est ravi que Vladimir Poutine lui ait accordé la citoyenneté russe hier. L'acteur russe l'a dit dans une lettre publiée par la presse russe. Une autre personnalité a menacé également aujourd'hui de demander la nationalité russe. Il s'agit de Brigitte Bardot, mais là, pas question d'argent. Bébé la veut si les autorités françaises décident d'euthanasier les deux éléphantes tuberculeuses du parc de la Tête d'Or à Lyon. Tous sur le pont, Jean-Marc Ayrault demande aujourd'hui à ses ministres de faire de la pédagogie partout en France pour expliquer l'action du gouvernement sur l'emploi. Le Premier ministre a donné des indications ce matin lors du séminaire à Matignon. Banque publique d'investissement, réforme bancaire, contrat de génération. Ce sont, dit-il, autant d'actes importants qu'il faut faire vivre sur le terrain. Le taux de chômage officiel reste stable aux États-Unis, 7,8% de la population active selon les données cet après-midi de Washington. Les embauches ont en fait ralenti en décembre. Au Canada, les chiffres de décembre sont encourageants. 40 000 nouveaux emplois ont été créés en décembre, soit 8 fois plus qu'attendu. Du coup, le taux de chômage au Canada a reculé de 0,1 point, 7,1% de la population active, soit son plus bas niveau depuis 4 ans. La Cour d'appel de Paris vient de condamner France Télévisions à requalifier le contrat d'un CDD en CDI. Le technicien travaillait depuis plus de 10 ans pour le groupe. La Cour d'appel a par ailleurs condamné France Télévisions à lui verser 100 000 euros d'indemnité. Marine Le Pen ne participera pas le 13 janvier prochain à la manifestation contre le mariage homosexuel. La présidente du FN dit aujourd'hui dans un communiqué que même si elle trouve le rassemblement légitime, ça reste une grossière tentative de récupération politicienne et d'enfumage sociétal de la part de l'UMP et du Parti socialiste. La mort hier soir d'un couple de jeunes gens dans l'incendie de leur fourgon sur un parking dévolu aux saisonniers a relancé la polémique sur le logement des saisonniers dans les stations de ski. La municipalité de la Clusaz, où a eu lieu le drame, a décidé de reloger les 10 autres saisonniers qui vivaient dans des camions sur le même parking. Ils ont d'abord été dirigés vers un autre parking en attendant que les solutions de relogement définitifs leur soient proposées. Vous écoutez France Inter, 16h03.
Oh,
Le 7-9 du week-end.
Patricia Martin.
Fabrice Drouel.
Le 7-9 du week-end sur France Inter.
Où l'ambition de marier rigueur de l'information et convivialité.
Actualité, décryptage, culture et découverte.
Samedi à 8h20, en partenariat avec Le Monde Histoire, nous parlerons des États-Unis.
De Roosevelt jusqu'à Obama, ce sera avec Jean Lebrun et son invité Alain Frachon.
À 9h20, la semaine politique, en compagnie de Christophe Barbier de l'Express.
Et de Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur.
Le 7-9 du week-end.
Tous les samedis et dimanches, à partir de 7h. France Inter.
La voix est libre.
Bonne année Sylvie Chapelle, c'est avec vous qu'on continue.
Mais oui, meilleurs vœux, on vous retrouve à 17h.
Eh bien c'est l'idée.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Sylvie Chapelle, on parle musique.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Notre résolution pour 2013 est de vous faire passer au moins un moment musical agréable par semaine, qu'il soit pop, électro, rock, latino ou tout à la fois selon les invités. Des invités qui nous racontent d'où ils viennent et où ils vont à travers des titres qui font partie de leur vie intime. Et pour cette première de l'année, on commence avec le plus moderne des répertoires. Ça dépend bien sûr de ses interprètes, claviéristes et chefs d'orchestre. On parle musique avec Jos Van Immerzel. Bonjour Jos Van Immerzel.
Bonjour Sylvie.
Je suis toujours très heureuse de vous accueillir. C'est l'occasion de vous rendre l'invitation. Nous étions venus vous voir à côté de Bruges pour regarder votre belle collection de claviers, clavecin et piano, que vous jouez en concert en fonction des œuvres programmées, le tout avec l'ensemble Anima Eterna Bruges que vous avez créé et que vous dirigez depuis 25 ans. Les auditeurs connaissent bien votre travail. Je passe régulièrement vos interprétations. On vous aime parce que avant de nous offrir une musique, quelle qu'elle soit, vous cherchez, vous creusez, vous faites tout pour nous donner le résultat le plus proche de ce que le compositeur avait en tête. Ça paraît évident, mais peu d'artistes poussent la démarche à ce point. Et le résultat, c'est qu'on se régale à vous écouter. Première question, est-ce que vous pensez, Jos Van Immerzel, que tout le monde peut entendre la différence entre une interprétation courante et une interprétation historiquement avisée, même si on ne connaît pas bien la musique classique?
Bon, j'espère, sinon ce ne serait pas la peine de l'essayer. Bien sûr, il faut une certaine préconnaissance, mais j'en suis sûr qu'on entend cette différence, même si on ne comprend pas tout de suite pourquoi.
Vous pensez que le répertoire que vous jouez est élitiste ou pour tous ?
Toute la musique est pour tous. Oui, le problème est chez l'écouteur, c'est pas chez le musicien.
Le problème est pour les musiciens et pas pour les auditeurs. C'est le musicien qui doit se débrouiller pour rendre cette musique émouvante.
Oui, c'est tout à fait normal si on veut, par exemple, jouer Beethoven, qu'on essaye de jouer Beethoven, pas autre chose. C'est pas du tout élitaire dans le sens social ou politique ou philosophique. Ça peut paraître de temps en temps élitaire parce que c'est peut-être pas toujours tout de suite accessible ou autrement dit, tout le monde peut entendre cette musique, mais il y a des gens qui vont écouter seulement une petite partie. Peut-être la mélodie, par exemple, où ils trouvent que c'est un petit peu long. Mais c'est le même problème pour tous les tableaux, pour tout l'art, pour tous les livres, pour tous les films.
Ça vient au fur et à mesure.
Un art qui est vraiment élitaire, c'est peut-être pas de l'art. c'est pas pensé comme ça, voilà.
Pour commencer, on va se refaire le concert du Nouvel An à Vienne avec l'un des emblèmes musicaux autrichiens, le Beau Danube Bleu de Johann Strauss, fils que vous avez enregistré. Avec votre version, on peut enfin danser sur le Beau Danube Bleu En général, c'est presque impossible. Qu'est-ce que vous faites de la tradition des énormes ralentis?
C'est Strauss lui-même qui, à la fin de sa vie, a publié un article dans un journal à Vienne en disant « ça me fait triste que j'entends ma musique jouer comme une musique de concert. C'est composé comme la musique de danse et il faut pouvoir danser là-dessus. » Et c'est pour ça que quand on a préparé notre projet, qu'on a invité une équipe de danseurs professionnels, de Paris d'ailleurs, et qui ont fait une étude des valses, des polkas et tout ça, et qui sont venus nous expliquer qu'est-ce que c'est. Et ils ont démontré les danses pendant qu'on jouait. Et donc j'ai demandé, il faut nous corriger si on fait quelque chose qui est difficile.
Qui vous empêche de danser.
Et quelque chose d'incroyable, c'est que dans la tradition récente de Vienne, on dit que le deuxième temps est très important.
Donc, il faut anticiper le deuxième temps.
Oui, il faut tam, tam, tam. Et donc j'ai demandé aux danseurs, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et ils m'ont répondu, on danse sur le 1 et le 3, le 2 ne nous intéresse pas. Et donc c'était très intéressant pour nous, on a appris beaucoup de choses.
Vous avez appris à danser pour jouer. C'est parti pour une valse viennoise.